Bonsoir Gérard Vier.
Bonsoir.
Où est-ce qu'on se trouve ici?
Alors on se trouve dans un petit, vraiment un petit bistrot, c'est le cas de le dire, rue du Cherche-Midi. On est avec une bande de copains investisseurs et on a voulu, non pas recréer, parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines dans Paris, mais on a voulu faire une petite table authentique, sans prétention, et puis remettre au goût du jour des plats d'autrefois.
Alors on va revenir sur cet itinéraire incroyable. Ce que je voudrais qu'on reprenne depuis le début, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a un personnage qui a tout déclenché, l'histoire de Gérard Vier?
Il y en a peut-être plusieurs. Il faut vous dire que j'ai des racines terriennes, je suis originaire de l'Aude. J'avais une tante qui était cuisinière, qui faisait très bien la cuisine. La maison de mes grands-parents maternels était un peu le café du village. Ma mère était aussi une très 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 bonne cuisinière. Et puis, mon autre tante, donc la femme de mon père aussi, on est vraiment une famille de bouffeurs. Alors, vous savez, c'est ces grands repas qui n'en finissent pas, mais où tout est produit dans le coin. On va à la pêche, on va à la chasse, on a le jardin potager, on élève le cochon, les canards, les oies, enfin, tout est produit par la famille. Et quand vous êtes élevé dans ce milieu-là, forcément, il en reste des séquelles. Et puis, lorsque j'ai été baptisé, moi je suis né à la fin de la guerre. Mon parrain n'a pas pu monter à Paris, comme on dit, à cause des restrictions de chemin de fer, etc. Et c'est un client et ami de mes parents qui était inspecteur général, qui m'a tenu sur les fonts baptismaux. Or, ces gens-là avaient quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils ont sacrifié toute leur vie à la bouffe. C'est-à-dire, ils s'en foutaient des voitures avec chauffeur, ils s'en foutaient des appartements de fonction, mais chez eux, tous les jours au déjeuner, c'était Lucullus, des jeunes chez Lucullus. Alors imaginez un appartement des années 1900 rue Cléry, qui n'était pas un quartier qui devient à la mode, mais qui à l'époque ne l'était pas, dans une cuisine misérabiliste, où on mangeait quand même des filets de bœuf grillés avec une béarnaise montée au bain-marie, comme on faisait au 19e siècle. C'est là que j'ai mangé mes premiers perdreaux rôti avec des pommes soufflées. Et c'est ma tante qui faisait tout ça. Donc j'ai été élevé dans ce milieu-là. Et quand j'étais tout petit, mon oncle, l'inspecteur général, me disait toujours, Gérard, coupe ta viande trop petit, fais des gros morceaux. Parce que pour apprécier la viande, tu dois la mâcher longuement. Alors qu'est-ce que vous voulez forcément, il reste des séquelles.
Alors, si, quand on reprend cette époque, s'il y a une odeur qui a pu tout déclencher, ce serait laquelle? Et le plat, j'imagine, c'est la viande, alors.
Oui, mais en même temps, c'était très curieux. Vous savez, quand on est gamin, on est souvent révolutionnaire, même quand on ne l'est pas vraiment. Alors, j'ai été élevé dans un collège extrêmement chic de Paris, avec des petits camarades beaucoup, beaucoup plus fortunés que ma propre famille. Mais enfin, tout le monde s'entendait très, très bien. Et je me souviens, dans cette école privée, de mon repas, de mon déjeuner de première communion. Et puis, je me souviens d'une deuxième chose. Je me souviens que pour les plus assidus à la messe, il y avait des distributions de bons points. Et moi, j'étais moyennement assidu, donc je n'avais pas souvent d'image pieuse. Et j'ai eu un sentiment d'injustice assez tôt. Et je me suis dit, oh, j'en ai marre, je ne veux plus continuer les études, je veux faire la cuisine. Alors pourquoi je veux faire la cuisine? Effectivement, parce que précédemment, la raison, je l'ai évoquée avec vous. Et surtout, je m'étais mis dans la tête de faire l'école hôtelière de Toulouse. Comme ma famille était de Carcassonne, j'avais déjà monté tout mon scénario. Manque de chance, je n'avais pas l'âge requis pour faire l'école hôtelière. J'étais trop jeune d'un an. Alors, il a fallu que je fasse quelque chose. Mon père, grâce à des relations, m'a fait rentrer chez Lucas Carton comme apprenti, avec M. Soustelle. Ensuite de quoi, j'ai toujours travaillé entre Lucas Carton et l'hôtel La Pérouse, rue La Pérouse, qui appartenait à M. et Mme Olivier, qui étaient les propriétaires de Lucas Carton. Et j'ai suivi un peu, j'ai fait un programme à l'envers, c'est-à-dire qu'ensuite j'ai été faire l'école hôtelière de Paris, au Jean Drouan. Voilà comment tout a démarré.
Alors après, on va marquer les grandes étapes jusqu'aux trois marches, au moment où vous allez franchir ces trois marches et les créer d'ailleurs. C'est quoi les grandes étapes rapidement?
Ça va être très rapide. Alors, j'ai pas fait beaucoup de maisons. Le Place d'Athénée, j'étais assez bien noté avec Monsieur Meunier. Il m'a envoyé à Londres pour parfaire mon anglais. Et à Londres, il m'arrivait une histoire invraisemblable. J'étais jeune commis de cuisine. Avec le chef saucier, donc responsable des viandes, il est tombé malade. Et pendant quelques jours, je me suis débrouillé comme j'ai pu. Mais finalement, j'ai satisfait tout le monde et je me suis retrouvé à 18 ans, chef associé au Carlton Tower de Londres, qui est un des plus grands hôtels de Londres. Voilà tout simplement mon parcours. Alors là, il est d'une simplicité archaïque. Après, je suis parti en Algérie. C'était la fin d'Algérie, mais j'ai fait 2 ans et demi pour faire mon service militaire, où là, j'ai encore eu de la chance. Après mes classes, comme tout le monde à Maison Lafitte, où j'ai quand même pas mal crapahuté et monté des gardes, ils m'ont tout de suite dirigé ensuite vers la cuisine. Alors je suis devenu chef de la maison de 2 généraux. Et après, j'ai regagné mon corps où je me suis occupé du mess des officiers. Alors là, j'ai complètement déliré avec le peu que j'avais. Je créais, même avec des sardines à l'huile, je faisais des trucs invraisemblables. Et mes officiers disaient, on n'a jamais vu ça nulle part. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Enfin bref, tout le monde était emballé. J'ai vraiment eu un truc très court. Et en revenant de l'armée, je suis un peu déconné, mais en tout honneur, c'est-à-dire que j'arrivais pas à vraiment rentrer dans la vie civile. Et au bout d'un moment, mon père m'a dit, bon, tout ça c'est bien joli, mais si c'est comme ça, tu vas aller faire un stage au wagon-lit. Je suis rentré au wagon-lit, où là aussi j'ai dû être distingué, parce que je me suis très rapidement occupé de trains de luxe ou de trains spéciaux. Alors j'ai fait des trains avec des présidents de la République, vous savez, des inaugurations de barrages, d'usines, de choses comme ça. J'ai sévi sur le Sud Express, qui était un train qui, on aurait pu dire, c'est le Meurice sur rail, ou le Place Athénée sur rail aujourd'hui. Et puis j'ai lancé le Capitole quand il a commencé à faire ses voyages à grande vitesse. Enfin, j'ai lancé sur le plan culinaire.
Bien sûr.
Voilà. Et ensuite de quoi? Mes parents m'ont dit, bon, ben, tu vas te marier, on va t'aider à acquérir un restaurant. Et on a visité pas mal de choses, rien ne me plaisait vraiment. J'ai fini par tomber amoureux de Versailles. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais gamin, mes parents allaient souvent à Versailles faire visiter la famille de province, on allait faire des pique-niques dans le parc. Enfin, on était très attachés à Versailles. Voilà comment je me suis retrouvé propriétaire d'un bistrot avec un menu à 12 francs à Versailles.
Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors après, pendant 3 ans, c'était difficile. Si mes parents n'avaient pas été là, d'ailleurs, j'aurais déposé le bilan. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer André Guillot, qui était un grand patron de cuisinier de l'époque, qui était à Marly-le-Roi, qui m'a pris en main. Qui m'a fait évoluer vers une cuisine beaucoup plus moderne que celle que j'avais appris avant. Avant, j'avais appris ce qu'on faisait dans les grandes maisons. C'était les réminiscences de la grande cuisine bourgeoise. Et lui a commencé à faire une cuisine très allégée, supprimer les liaisons, les farines, etc. Et un jour, il m'a fait rencontrer Philippe Goudert, qui était un journaliste très influent de l'époque, lequel Philippe prenait toujours des rendez-vous auxquels il ne venait jamais. Et là, Philippe est arrivé le jour où on ne l'attendait pas. Alors, tout le monde était très très peureux. Et le premier article est sorti et c'était magique pour moi parce que c'était un festin royal à Versailles. Et 15 jours après, c'est Henri Gault qui est venu manger et ils ne m'ont jamais lâché. Ils ont toujours été derrière moi.
Là, on peut dire que c'est des critiques qui vous vont aider à franchir les marches.
Oui, je suis vraiment un pur produit puisque le Michelin est arrivé 2-3 ans après. Mais d'un premier coup avec une étoile, c'était quand même formidable. Et Christian Milliou me racontait l'année dernière que j'avais été le cuisinier le plus photographié de tous les cuisiniers du Goémiot.
On fera encore une photo de vous tout à l'heure d'ailleurs.
C'était Bocuse ou Guérard ou des gens beaucoup plus célébrissimes que moi. Puis c'est trouvé. Et puis il y a des choses, on enchaîne dans la vie, on ne peut pas savoir. Un soir, je vais en pleine mousson à Bangkok en vacances, je vais dans un restaurant français où m'amène un directeur d'hôtel, un de mes amis. Quelqu'un fait tomber un verre d'eau sur mon pantalon. Je me dis, tiens, je connais cette personne-là. Bon, puis il est sorti. Le lendemain, je suis dans une soirée chez une femme française qui achetait les plus belles soies pour la haute couture parisienne. Il y avait mon voisin de la veille. Et alors je lui dis, mais hier, monsieur, vous m'avez inondé mon pantalon. Ça m'a beaucoup amusé, c'est pas du tout un reproche. Il me dit, bah Gérard, vous ne me reconnaissez pas? C'était Christian Milliot. Il y a des choses qu'on ne peut pas inventer. Quand on est rentré à Paris, le Goémiot m'a confié, je crois, 7 ou 10 pages d'un réveillon orientaliste pour la revue Goémiot. Alors, ma vie n'a été faite que de choses comme ça. J'ai été entouré que de femmes qui ont énormément œuvré pour moi, sur le plan amical, sur le plan des sentiments. J'ai eu des tas d'amis. Tout à l'heure, je vous parlais de Claude Villers. Il a bien fallu que quelqu'un me le présente. Et je crois que ma vie est une vaste chaîne d'amitié. ça c'est extraordinaire, et je dois évidemment ma réussite à la presse, et puis je le dois aussi à un homme qui était très important pour moi à l'époque, qui était le préfet Chobard, qui était le préfet des Yvelines, qui croyait dans le travail que je faisais, qui me faisait faire des repas à la préfecture, et lui aussi m'a toujours poussé. C'est extraordinaire le nombre de gens, j'ai une vingtaine de gens autour de moi qui m'ont poussé, même quand je faisais des choses improbables. J'avais madame Nanette Seligman, qui était une femme extraordinaire, je faisais manger des trucs dont j'avais honte des fois, elle me disait: Gérard, ce n'est pas ça, mais continuez, finissez ce plat, parce que vous êtes sur la bonne voie. Alors c'est des trucs...
Bon, des rencontres extraordinaires. Gérard, vous avez été à l'origine de nombreuses étoiles. Il y a beaucoup d'étoilés aujourd'hui qui le doivent grâce à vous.
Hein, oui,
qui le doivent à vous.
Oui, enfin grâce aussi à leur talent.
Bien entendu.
Pas sauter
des
bons
élèves. Vous avez même formé des 3 étoiles aujourd'hui.
Oui.
Et pourtant, vous n'avez jamais atteint les 3 étoiles. Est-ce que c'est un regret ?
Non. Écoutez, très honnêtement, si je ne les ai pas eues, c'est de ma faute. Je ne suis pas ce qu'on appelle un technicien perfectionniste. Je suis un espèce de troubadour. Quand une idée me passe par la tête, je la fais, puis je la mets en vente.
Mais alors, ce qui est extraordinaire, vous avez été dans les étoiles, et là, je vous vois, tout simplement, là, dans un restaurant sympathique, mais un bar qui n'a rien à voir avec ce qu'étaient les
travaux. Exactement, rien à voir.
Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé, là ?
C'est très difficile, vous savez, moi, j'ai eu quand même, pendant 30 ans, la pression sur mes épaules d'un restaurant célébrissime. Il m'arrive, ce qui vient aussi d'arriver, Olivier Roninger, qui a travaillé avec moi, Olivier. Il y a qu'à un moment donné, on a envie tout simplement de vivre.
Est-ce que ça ne serait pas la sagesse, tout simplement, ça, d'un chef, d'un grand chef ?
Oui, c'est la sagesse, mais tous ne le font pas, parce que beaucoup ont des héritiers, vous comprenez, ont des enfants. Moi, j'en ai pas, mais j'ai des filleuls. Mais c'est vrai que je fais des choses en pensant à mes filleuls, parce qu'il y en a deux qui sont en cuisine. Donc, si vous voulez, il y a toujours quelqu'un qui vous pousse à faire quelque chose. Mais moi, en fait, j'ai pas de revanche à prendre sur la vie. J'ai eu je suis très, très heureux de ma vie professionnelle. Simplement, j'ai l'impression que quand j'ai eu terminé les 3 marches à Versailles, on m'avait mis d'un seul coup au régime sec. Ça, c'est terrible. J'aurais préféré que ça se passe d'une façon plus différente. J'aurais aimé, par exemple, qu'après moi, on puisse installer le potager du roi dans cet hôtel magnifique. Alors qu'avec Philippe Le Tourneur, j'ai toujours le potager du roi, qui est un très joli restaurant, mais qui, lui, alors est moins bistrot. Il est gastronomie abordable, ce sont les mêmes prix qu'ici. Alors que ici, c'est volontairement que nous avons joué le bistrot. Et puis, il m'est arrivé une aventure amusante. Il y a quelques années, le Monde m'avait consacré une page dans son magazine du week-end. Et le journaliste a écrit que je crois que c'est un truc qui me colle vraiment à la peau. C'est un truc idiot qui va faire rigoler beaucoup de gens, mais bon, moi ça m'a impressionné, parce qu'il m'a bien trouvé. Il a dit, dans le fond, il fait de la cuisine rustico-jet-set. Et c'est vrai, j'adore mélanger les choses tout à fait simples, que j'aime mélanger, avec des produits beaucoup plus nobles. Un de mes grands amis, qui a été un très très grand reporter, un grand journaliste, Pierre Demeron, m'a dit toujours, vous avez le talent de mélanger les choses et les gens que vous ne devriez pas mélanger. Et c'est vrai, quand je fais un dîner chez moi, je mélange tout le monde, je m'occupe pas des gens. Et je crois que c'est un peu pareil en cuisine.
Gérard, en tout cas, on vous sent heureux ici, toujours aussi enthousiaste.
Oui, je suis heureux. Et très grand reporter, grand journaliste, Pierre Demeron, m'a dit toujours, vous avez le talent de mélanger les choses et les gens que vous ne devriez pas mélanger. Et c'est vrai, quand je fais un dîner chez moi, je mélange tout le monde, je m'occupe pas des gens. Et je crois que c'est un peu pareil en cuisine.
Gérard, en tout cas, on vous sent heureux ici, toujours aussi enthousiaste.
Oui, je suis heureux.
Et sage.
Je découvre des plats nouveaux. En fait, je ne découvre pas vraiment. Je découvre des plats que j'ai mangés il y a 50 ans, des plats de famille, des plats rustiques, des vrais plats, les plats de la France profonde, la vraie cuisine française. Parce qu'on a beau parler de restaurants à la mode, on a beau parler de toutes sortes de cuisines. Moi-même, j'ai fait partie du mouvement de la nouvelle cuisine. Donc, ça ne viendrait pas à l'idée de cracher sur une cuisine quelle qu'elle soit. Mais dans tout ce qu'on peut trouver de plus innovant, de plus intéressant, il reste quand même les bases. C'est-à-dire que si on n'a pas ces bases-là, on ne fait rien. Comprenez, encore, quand on fait des choses extraordinaires, encore faut-il savoir faire cuire des haricots secs et monter une mayonnaise. C'est de moins en moins à la portée de tout le monde, parce que maintenant tout se trouve tout près partout, même pour les ménagères, c'est catastrophique. Et puis, on a aussi, je pense que l'agroalimentaire a cassé le plaisir de la découverte et le plaisir de la table. Maintenant, vous trouvez des foie gras, vous trouvez tout à longueur d'année, tout fait. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a plus que la truffe avec laquelle on a des surprises, un coup sur deux, quand elle est bonne ou pas bonne. Mais pour le reste, on a tout à disposition.
En un mot, qu'est-ce qui vous fait courir encore, comme ça?
Le filet de hareng et les pommes de terre tièdes au vin blanc.